Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arnaud Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Xavier Lévesque, Bruno Mourlan et Stéphane Touvenin. Réalisation signée Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir en public au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, Charlotte Garçon, Philippe Azoury et Antoine Guillot pour que nous puissions parler ensemble de Grâce à Dieu de François Ozon, Les funérailles des roses de Toshio Matsumoto. Peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares de Radu Jude. Et puis Philippe Azoury fera un petit retour sur la Berlinale 2019. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour les expositions de la Fabrique du Vivant et Erika Verzuti, c'est le cycle Mutation-Création au Centre Pompidou à Paris. S'il a beaucoup été question du film de François Ozon, Gloire à Dieu, ces derniers jours, c'était surtout dans la rubrique judiciaire, parce qu'il n'était pas assuré de sortir sur les écrans mercredi dernier. Il n'en a été assuré que la veille, après deux audiences de tribunaux saisies par deux des acteurs de l'histoire qui y racontaient, à savoir les agissements pédophiles du père Prénat et la façon dont le cardinal Barbarin a géré cette affaire, même si les deux prélats sont présents dans le film. François Ozon a centré son scénario sur trois des victimes du prêtre, comme trois façons de vivre ce traumatisme et les conséquences sur leur vie.
Je m'appelle Alexandre Guérin, père de cinq enfants. Je découvre il y a un mois, par hasard, que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant.
Il t'a vu?
Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants?
Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait, c'est notre secret.
Je suis horrifié par ce que vous me dites.
Enfin, moi, ce que j'attends, c'est une sanction de l'Église à son encontre.
Je vais être clair avec vous, le père Prénat restera toujours prêtre.
Vous avez une idée d'autres victimes qui pourraient témoigner?
Mais je suis sûr qu'il en existe.
Il y a une plainte qui a été déposée contre Prénat.
Putain, c'est pas vrai. Mais regarde, il est encore avec des gosses. Je croyais qu'il était mort. Il va falloir faire quelque chose.
Il faut réunir d'autres victimes.
Et j'attends depuis toujours ce moment. Que je puisse enfin tout raconter moi aussi.
Mais c'est important. Est-ce que vous voulez porter plainte contre Bernard Prénat? Ouais, je porte plainte.
Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits.
Vous vous rendez compte de la violence de ce que vous venez de dire? Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement.
Moi, je voudrais vous dire que je fais pas ça contre l'Église, mais pour l'Église.
Maman, tu te souviens? Un jour, en sortant du catéchisme, je t'avais dit que Prénat m'avait embrassé.
Pourquoi vous n'étiez pas allé voir la police?
Peut-être qu'on aurait dû.
Ça fait plus de 30 ans, Alexandre.
Maman, il s'agit d'aujourd'hui, du père Prénat qui est toujours en contact avec des enfants.
Tu as toujours été doué pour remuer la merde.
Tu n'as pas le monopole de la souffrance, il n'y a pas que toi qui souffres ici. Hein.
La vérité qui sort enfin. Ah ben bravo.
La vérité, c'est que tu nous emmerdes avec ton histoire de curé. Les parents parlent que de ça, hein, jour et nuit. Tu t'as toujours tourné autour de toi, de tes putains de problèmes.
Moi, j'ai rien construit. Hein. Pas de famille, pas de boulot.
Mais essaye de faire quelque chose de ta vie.
Oui, mais justement, c'est ça ma vie, tu vois. La parole libérée, c'est ça ma vie. Tu comprends rien, en fait. Hein.
Mais pourquoi tu fais tout ça, papa?
Pour que ce que j'ai subi se reproduise plus. Grâce à Dieu de François Ozon est donc sorti sur les écrans ce mercredi. Comme ça, tout le monde peut se faire son avis sur ce film. Il y en a quelques airs autour de cette table. Commencez par celui de Charlotte Garçon.
Oui, on l'entend un petit peu dans la somme de paroles qu'on a entendu en bande-annonce. On voit bien. Enfin, il me semble que l'enjeu du film, c'est d'accompagner la libération de la parole, donc de s'inscrire en faux contre une sorte de culture du silence. Il le fait de manière à la fois, je trouve, juste et à la fois tellement dans l'accompagnement que je me pose une question sur le du coup la, l'intérêt cinématographique du film, l'intérêt social, sociétal, voire juridique, oui. Donc peut-être quand même déplier un petit peu la construction du film, parce qu'il a cette intelligence de doser les choses et de partir donc de la première personne qui a lancé l'alerte et qui est justement ce bourgeois catholique lyonnais. Et l'intelligence, c'est de bien ancrer le film là-dedans, c'est-à-dire de dire justement ce ne sera pas une diatribe contre l'Église en général et encore moins contre la foi catholique, contre le catholicisme, etc. Donc partir de l'intérieur et de ce premier personnage, mais qui est une vraie personne, qui fait d'abord toutes les démarches à l'intérieur du système ecclésiastique et qui ne passe à l'étape judiciaire, ne s'adresse à la loi qu'en désespoir de cause parce qu'il n'est pas entendu ou qu'il n'y a pas de conséquences. Donc tout le film est quand même construit sur le fossé entre la clarté d'une parole. C'est pas du tout un film sur l'avènement du témoignage intimement. C'est pas sur cette psychologie-là. C'est quelqu'un d'emblée et François Ozon utilise ses lettres qui sont dites en off. Donc c'est un artifice classique du cinéma, une correspondance réelle, disons, utilisée en voix off. Et ce qu'on entend d'abord, c'est la clarté de ce qui est à la fois raconté, voilà. Il y a une espèce de clarté de début qui est mise en opposition avec l'absence d'action prise par les différentes, tous les niveaux hiérarchiques à l'intérieur de l'Église. Donc c'est, voilà, il me semble que cette clarté de départ, c'est à la fois ce qui fait du film un film irréprochable en quelque sorte, et en même temps ce qui le bloque peut-être un peu dans le fait que du coup ça ne déborde jamais, enfin il n'y a pas de surprise ou d'accro, et on a quand même l'impression que dans les liens humains qui se tissent entre les différents témoins, puisqu'ils vont s'agréger en association, cette association La Parole Libérée. Peut-être, là, moi, j'ai eu l'impression que justement, ces liens étaient... Il y avait du liant. Le film mettait du liant et je n'ai pas ressenti, justement, une forme de solitude ou de... Oui, rien n'accroche, quoi. C'est-à-dire que, voilà, il y a une communauté qui se forme de manière qui me semble un petit peu difficile à accepter, disons, du point de vue du spectateur.
Philippe Azoury, premier regard sur Grâce à Dieu de François Ozon.
Non, Charlotte a effectivement raison. Enfin, on a sans doute le plus mauvais rôle, nous, critiques de cinéma, de devoir juger ce film, non pas sur son point de vue judiciaire, non pas sur les faits, non pas sur l'histoire en elle-même. On commence à la connaître, elle a remonté aux alentours de 2015-2016, elle est encore en jugement, elle est passée en jugement au début du mois de janvier, elle repassera encore en jugement lorsque Bernard Prénat sera jugé. Mais que faire du film en tant que mise en scène? C'est un film effectivement sans action, c'est un film qui filme des gens qui n'ont pas agi, qui n'ont pas bougé. C'est un film qui prend le choix de faire de la parole son meilleur allié. On a vu, c'est effectivement une bande-annonce qu'on a entendue très 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 bavarde, mais c'est tout le film qui est ainsi. C'est très étonnant même de la part de François Ozon. Enfin, j'ai un film qui va à ce point, qui fait à ce point confiance à la parole, au relais de la parole au début donc de Melville Poupeau, ensuite ce sera Denis Ménochet, Éric Caravaca, et enfin la deuxième heure, qui est la meilleure heure du film d'ailleurs, l'apparition de Swann Arlo et la parole bouleversante enfin du personnage qu'incarne Swann Arlo. Qu'est-ce qu'on fait malgré tout de mise en scène à l'intérieur de ça, d'un film qui essaye de ne pas avoir d'accro, un film qui essaye d'être effectivement de ne pas opposer, Charlotte le disait. Enfin, on a à la fois ceux qui intentent un procès pour l'Église, pour le bien de l'Église, ceux qui intentent un procès contre l'Église. Tout le monde est à peu près à très bonne répartition. Moi, ce qui me l'énigme, enfin, je veux dire pour l'instant de ce film-là, qui est pourtant à mon sens le meilleur de Ozon, c'est pourquoi la fiction. C'est-à-dire, effectivement, enfin, ce qui fait que c'est un très très bon Ozon, comme d'ailleurs son film, dont j'ai oublié le nom, peut-être autour de moi on s'en souviendra, le film sur la jeune fille qui se prostituait, sur la jeune étudiante, Jeune et Jolie, ouais, qui est aussi à mon sens un des bons Ozons. Je suis vraiment pas client d'Ozon en général, mais je trouve que chaque fois qu'il est sur qu'il a un sort de désir d'enquête, Ozon est meilleur que d'habitude. Là, pourquoi, alors que le travail d'enquête, le travail quasiment documentaire a été fait, pourquoi la fiction? J'ai pas la réponse, mais c'est la belle énigme du film, j'ai l'impression.
Antoine Guillot, alors nos plus fidèles auditeurs savent que vous avez un passif quand même avec François Ozon, dont vous dites quand même ce que vous pensez, c'est-à-dire beaucoup de mal depuis des années de ses films, hein, pas de lui, hein, on parle pas des personnes, on parle des œuvres qu'il crée. Est-ce que ce film-là vous a procuré une approche différente ?
Pour quelqu'un d'aussi peu ozonien que moi, ce film aurait dû être le film de la réconciliation, puisque tout ce que je peux reprocher à François Ozon en général n'y est pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le surplomb par rapport au personnage, si ce n'est pour ne pas parler de cynisme, il n'y a pas le côté un peu camp qu'il a, et puis il n'y a pas le côté un peu mal torché, un peu rapidement fait qu'il y a d'habitude. Donc on sent que dans ce film, il a beaucoup investi de sa personne, et que étant résolument, pour le coup, effectivement, du côté des victimes, il va s'interdire ce qu'il fait d'habitude. Alors, ça devient presque dommage. C'est-à-dire que le film devient d'une platitude totale. Quand vous parliez de bavardage, on peut même parler de littéralité. C'est-à-dire qu'il abandonne tout désir de cinéma. C'est très étonnant. Tout ce qu'il pourrait essayer de raconter par des moyens cinématographiques et raconter par des personnages en train de nous exposer tous les enjeux au cas où on n'aurait pas bien compris. On pourrait presque regarder le film les yeux fermés comme on vient de le faire avec cette bande-annonce. Ça changerait pas grand-chose. Et parce qu'on sent que, alors je ne sais pas si c'est l'apport des avocats, je suis même pas sûr que ce soit ça, qu'ils disent attention, il ne faut pas montrer ça parce que vous allez avoir un procès, etc. Non, je pense que c'est lui, c'est bloqué par rapport à cette histoire en disant c'est quand même grave ce que je raconte, c'est pas le moment de faire le malin. Sauf que voilà, ça donne un film où on est de toute façon, c'est paradoxal de dire ça pour une histoire aussi dure, on est très confortable comme spectateur, puisqu'on est toujours du bon côté. On est toujours du côté de la personne qui va parler, qui souffre et qui va se remettre. Or, les aspérités, les moments qui auraient pu, parce qu'il y a des pistes de films tout à fait passionnants dedans, et je ne parle pas des flashbacks complètement ratés en couleurs vives pour vous montrer, où on sent que Ozon joue. Alors là, c'est le seul moment où il fait un peu le malin. Il dit jusqu'où je peux aller filmer. Alors il s'arrête à une main caressant un foulard, mais on sent que s'il avait toute la liberté, s'il a le côté noir, profond, sadien, presque. Que de Ozon pouvait donner libre cours, là on aurait peut-être des images perturbantes pour le coup. Mais non, ce qui est passionnant dans le film, c'est d'une part effectivement Barbarin, c'est-à-dire comment cet homme avec une parole qui là pour le coup est au-delà du didactique, c'est une parole agissante, c'est une parole pateline comme ça qui essaye d'endormir tout en disant des choses, tout en étant absolument sûr de son bon droit.
Stratège.
Je sais pas d'ailleurs si c'est une volonté, s'il y avait un message caché de mettre la photo de l'enfant du ghetto de Varsovie dans son bureau et une photo de Tintin au Congo dans sa chambre. Là, il y a du signe qu'il faudrait décrypter. On parlera de l'enfant du ghetto de Varsovie tout à l'heure avec Radu Joud. Alors, il y a ça qui déjà serait intéressant. Moi, ça m'intéresserait d'essayer d'imaginer par la fiction à l'intérieur de l'Église pourquoi et comment on étouffe ces questions-là, pas en le dénonçant, en essayant de comprendre le mécanisme. Et puis, il y a ce personnage du curé, là, pour le coup, Prénat, qui est très étonnant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se considère comme malade, qui alerte sa hiérarchie depuis 30 ans en lui disant « Empêchez-moi de toucher des petits garçons, parce que si vous mettez autour d'eux, voilà ce qui va se passer. » Sa hiérarchie continue à le faire, et lui continue tout en étant très conscient que c'est mal. Bon, c'est un personnage de fiction extraordinaire. Moi, souvenez-vous d'El Club de Pablo Larraín, qui l'a plongé dans des abysses, quelque chose de très complexe. Et le film fait tout sauf ça. Donc, pour peu que vous ayez un peu, comme moi et comme j'imagine beaucoup de gens, suivi cette histoire, l'affaire Barbarin et ces présomptions qui ont été prouvées depuis dans les procès, dans les articles, vous savez tout et vous vous ennuyez profondément dans cette histoire. Et dernier point, parce que c'est aussi pour ça qu'il est sorti sans encombre du procès, c'est qu'il y a des cartons à la fin qui disent l'affaire n'a pas, l'homme bénéficie de la présomption d'innocence, l'affaire n'a pas encore été jugée. Sauf que comme ça arrive à la fin du film, ça donne aux spectateurs le sentiment d'un scandale en disant on nous a montré tout ça, mais que fait la justice, ça n'a pas été jugé. Il me semble que ça aurait été mis au début, non seulement ça aurait donné une autre vision du film, mais ça aurait évité cet effet que je trouve là un peu malhonnête.
Bon, alors je vais pas répéter tout ce que vous avez déjà dit, mais je retiens, Antoine Guillot, que vous reprochez à François Ozon de ne pas être François Ozon, donc c'est quand même bien pour une fois. Vous m'avez reproché d'être François Ozon pendant des années, et maintenant il n'est pas assez François Ozon. Voilà. Bon, il faudrait savoir quand même, mon cher Antoine.
Parce qu'il me semble qu'il dit justement que quand il ne fait pas le malin, il ne reste plus rien. C'est
oui,
c'est logique,
il aurait aimé qu'il le fasse. Vous avez bien écouté.
Non, mais
vous auriez aimé qu'il rentre sous la tente avec le scout.
Je me dis, non, est-ce qu'il aurait, pour le coup, oui, il l'aurait fait, mais ça dépend comment, ça dépend comment on le fait. On peut le faire, on peut le faire sans faire le malin non plus. Vous voyez. Mais effectivement, il me semble, comme dit Charlotte, qu'une fois qu'on enlève certaines postures, il reste pas grand chose.
Non, parce qu'il manque une chose essentielle à ce film, et vous l'avez tous dit, c'est du cinéma, ce qui est quand même évidemment un peu gênant. Mais, j'ai cherché pourquoi, parce qu'il y a quelques moments, donc, ces pénibles flashbacks dont vous avez parlé, en effet, qui sont vraiment, pour le coup, gênants. Il y a quelques effets comme ça, quand le personnage incarné par Melvin Poupeau, il s'appelle François dans
non, Melville Poupeau, c'est Alexandre.
Non, c'est Alexandre. Non, François, Alexandre, c'est Swan Arlo.
Oui, non, pardon. Emmanuel.
Enfin, bon, bref, on mélange tout.
C'est Emmanuel.
D'accord, peu importe. Melville Poupeau, donc quand tout d'un coup, c'est un peu dur le combat, mais tout d'un coup, il est mal rasé, alors qu'il est propre sur lui tout le long du film. Quand on voit celui qui joue de la batterie au milieu de la nuit.
François,
merci. Denis donc, Minoche. Il joue de la batterie au milieu de la nuit. Sa femme descend et il dit « Quelque chose ne va pas, mon chéri ?» Donc là, on se dit que bon, il valait mieux éviter ce type de scène et rester dans les exposés, parce qu'on a une sorte, effectivement, de succession des scénettes explicatives, qui sont souvent fastidieuses et répétitives. Mais à cet égard, d'ailleurs, Philippe Azoury, pour faire un petit préquel à votre séquence tout à l'heure sur Berlin. Mm-hmm. Il a reçu donc le grand prix du jury.
Oui, qui correspond à un ours d'argent.
Il a été reçu comment parmi les festivaliers?
Mais plutôt très bien. Enfin, le côté dossier de l'écran, film à débat, bien mené, bien joué avec toi. Voilà, chaque fois.
Berlinal, quoi.
Très berlinal, oui. Très, il n'y a pas de cinéma, mais c'est pas un problème. C'est quand même un problème pour nous.
Mais le fait est que j'ai fini par voir dans la presse une interview à la Croix de François Ozon, et le titre c'est « J'ai voulu faire un film citoyen qui permette le débat ». Donc je crois qu'en fait ça clôt un peu le nôtre d'une certaine façon. Charlotte Garçon.
Il y a quand même la question pourquoi donc faire un film de fiction, et François Ozon y a répondu dans des entretiens en disant que le désir de fiction venait des personnes. C'est étrange comme c'est-à-dire que
qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que ces témoins ont eu tellement marre d'être témoins documentés, hein, parce qu'avant lui, bien sûr, ils ont donné des entretiens, enfin, ils ont travaillé avec des journalistes, etc., et que eux-mêmes avaient un désir de fiction et qu'ils ont été déçus quand lui, au début, esquissait l'intention de faire peut-être une pièce, peut-être un documentaire. Et donc, ce qu'il dit, c'est voilà, c'est venu d'eux. Qu'est-ce qu'il dit que justement, en faisant une fiction, on transforme les victimes en héros. Et c'est ce qui se passe, enfin, c'est ce qui est dit par les personnes eux-mêmes. C'est-à-dire une forme
par le corps de l'acteur
de résilience qui est dite par certains des personnages du film. C'est-à-dire, on était des victimes, maintenant on est des héros. Et ça, c'est pas tellement remis en cause. C'est pas problématisé, disons, dans le film. C'est une sorte de bien-être qui est une sorte de plus-value à la personne au bout d'un nombre d'années de souffrance et de témoignages. Bon, enfin, ils ont une incarnation avec un corps glorieux d'acteur. Donc, je trouve ça encore plus étrange, cette idée que le désir de fiction viendrait des témoins. Donc, ça, voilà.
Mais pas obligé de croire toutes les déclarations des artistes.
Non, tout à fait. Hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres points un petit peu hors champ du film qui, moi, continuent de me paraître étranges, comme justement le statut de la loi et de la police dans le film, parce qu'il arrive très tard, et en même temps, on voit bien, on l'entend, François, l'un des témoins, dit, quand on lui dit « Vous voulez porter plainte ?», il dit « Oui, je porte plainte ». Et quand on dit « Je porte plainte », on entend, c'est une parole performative, justement. Mmh. Et ce côté performatif, c'est-à-dire, c'est l'acte, c'est ça, l'action. Il y a de la parole, mais il y a de l'action dans le sens où c'est une parole qui, agit. Ça pourrait être intéressant, parce que ça serait mis en regard de la parole performative de l'ecclésiastique. En général, du prêtre. Enfin, un prêtre a ce pouvoir-là aussi. Il n'y a pas tant de gens qui l'ont. Un juge, peut-être, aussi. Mais ce qui m'interroge quand même, c'est le fait que le parquet, ou enfin, en tout cas, l'institution, la justice, n'intervienne que très tard. Et finalement, le film ne questionne pas tant que ça ce côté tardif de l'intervention de la loi, quoi. La loi, pas la loi ecclésiastique.
Philippe Azoury.
Mais c'est ce qui est vraiment énigmatique dans ce film-là. C'est-à-dire que tout ce qui relève des stratégies du mal, toi nous disais, notamment à travers la figure de Monseigneur Barbarin, n'est absolument pas traité. J'ai l'impression qu'il y a une révolution interne ou intime qui s'est... qui a eu lieu à la, chez François Ozon, qui passe par le 120 BPM de Campillo. C'est-à-dire, d'un coup, la révélation, lui qui avait, n'a jamais, absolument jamais, jamais, jamais été du côté du personnage, ce qui fait que moi, j'ai toujours un malaise constant depuis plus de 20, 25 ans avec le cinéma de François Ozon, enfin, le cynisme qu'il a, l'acharnement qu'il a parfois sur ses personnages. Pourquoi, d'un coup, à la façon du 120 BPM, il rêve d'un collectif, d'une chaîne où on se donne la main, où on agit, où l'associatif renverse, avec une même citation littéralement de Act Up à un moment donné, lorsqu'il est question de dessiner un sexe grâce à un avion dans le ciel. Je veux dire, c'est ça qui est réellement surprenant. C'est vrai que c'est le moins ozonien de tous les films de tous les films d'Ozon.
Bon, on aurait pu parler longtemps.
Et le mal est hors champ total.
On aurait pu parler longtemps du film que François Ozon aurait pu faire, mais en fait, celui qu'il a fait dans les salles, et il s'appelle Grâce à Dieu. On va parler dans cette dispute des funérailles de Rose, des roses, de peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares, et revenir à nouveau sur la Berlinale.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Bon, changement de genre, si je puis dire, avec cette suite de notre émission pour un film dont on comprend, c'est le cas de certains films, qu'ils soient restés inédits un certain temps, peut-être parce qu'ils attendent que l'époque corresponde à leur proposition. C'est en tout cas l'effet que m'a fait ce film Les Funérailles des Roses, réalisé en 1969, jamais vu en France, enfin jamais sorti dans les salles en France. C'est le premier long métrage de Toshio Matsumoto, c'est un cinéaste donc japonais qui venait du documentaire, du cinéma expérimental. C'est un film qui va s'intéresser, pour le dire vite, à la communauté des drag queens tokyoïtes à la fin des années 60.
Peter, Eddie, c'est le héros, comment
tu le sens? Je pense que c'est un peu comme ça. 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 Je pense que
どういう動機でね、ゲイボーイになったの？やっぱり自分がこういうね、女の子になってみたいって、やっぱり好きだから。
しかも残酷の中に笑いまで込めた本当の異色作品でしたね。
Voilà au moins une bande annonce qui ressemble au film. On entend ce montage très cut, ces ruptures d'ambiance, ces changements de ton. Et effectivement, on peut dire que Les Funérailles des Roses, ça ressemble aussi à ça. Philippe Azoury, pour commencer.
Bah oui, pas du tout lugubre, pour le coup, Les Funérailles des Roses. Très très fleuri. Étrange film, effectivement, qu'on va ressortir là, qui existait déjà en DVD, mais aux États-Unis. C'était Eureka qui l'avait sorti. Moi, ça m'avait, c'est comme ça que j'avais vu il y a une dizaine d'années, parce qu'il y avait un livret qui était signé Jim O'Rourke, l'un des musiciens de Sonic Youth, qui vit depuis plus de 10 ans désormais, presque 15 ans maintenant au Japon, et qui écrivait que c'était un des films, justement, qui avait été décisif dans sa décision, dans sa volonté, une fois pour toutes, de quitter les États-Unis et de vivre à Tokyo. C'est un film qui condense à lui seul tout ce que peut être, tout ce qu'a pu être l'underground japonais entre Shinjuku et Shinjuku Hachome, qui est le quartier gay, toujours, même encore aujourd'hui, très secret du Japon, très profil bas. Les Japonais ont encore beaucoup de problèmes avec la représentation de l'homosexualité. C'est la même chose avec les drogues, qui sont aussi abordées dans le film. Enfin, vraiment, il y a toutes les couches réellement de l'underground sont là. On retrouve un peu ce qu'a été l'effervescence de ces années-là, en partie parce que le film est produit et distribué par l'ATG, qui était l'Art Theater Guild. C'est grâce à l'ATG, qui est en fait une sorte de production underground, avec des projets qui étaient défendus par des critiques, par des metteurs en scène, par un distributeur qui était très particulier. Bah, grâce à l'ATG, on a pu voir des films de Terayama, auxquels on pense beaucoup ici, par le même baroque, même parfum comme ça, un peu... un peu, comment le définir, pour reprendre, empoisonné, enfin on va dire ouais. Capiteux, certains Oshima aussi, La Pendaison notamment, ou Le Voleur de Shinjuku, c'est des films voilà qui c'est la même période. Celui-ci a quand même cette particularité, c'est qu'il a ces personnages qui sont soit drag queen, soit littéralement transsexuels, avec un personnage qui s'appelle Eddie, qui était joué par un transsexuel très très célèbre au Japon, Peter, voilà, nommé. Eddie, c'est pour Eddie Sedgwick, on le voit très très bien aussi, la référence à Warhol. Et la construction, plutôt la déconstruction permanente de Eddie, rencontre le mythe qui est le mythe d'Oedipe. C'est pas peut-être pas ce qui est le plus réussi ouais. aujourd'hui dans le film. C'est peut-être, ça arrive très tard dans le film et ça ponctue un peu, ça vient un peu expliquer Eddie. Or, Eddie n'a pas besoin d'être expliqué. Eddie, il a besoin d'être déconstruit, comme le film. C'est-à-dire qu'il a besoin que son récit se casse, que son récit s'enjambe, que son récit fasse des sauts, agisse par flash, avance par flash. C'est cette énergie-là qui est dans ce film, qui est très marquée par son époque, presque trop, et en même temps visuellement absolument extraordinaire.
Alors visuellement, quelques images, Antoine Guillot, qu'est-ce que ça donne quand on regarde Les Funérailles des Roses ?
Imaginez un peu un catalogue de tout ce qui se faisait dans l'underground à l'époque et dans la modernité du cinéma. C'est un film dont les origines viennent autant de Jonas Mekas, qui est appelé...
Monas Gekas,
ou je ne sais plus comment, dans le film, mais aussi de Godard sur une utilisation du jump cut, de l'arrêt sur image, mais aussi de Pasolini, qui est cité très explicitement par les affiches d'Oedipe Roy dans la rue. D'ailleurs, le mythe d'Oedipe arrive très très vite. On se dit tiens, après on l'oublie et puis ça revient. Il y a des images en accéléré avec la petite musique qu'on a entendue qui anticipe le Orange Mécanique de Kubrick, puisque c'est tourné en 69. Il serait curieux de savoir si Kubrick avait vu ce film, parce que tout d'un coup on voit ça, c'est très troublant. Les images polarisées, enfin c'est vraiment tout le catalogue de ce qui pouvait se faire à l'époque. Ce qui par moment d'ailleurs devient un peu laborieux. Il y a même un film Underground qui est projeté au milieu, qui est une citation d'un film précédent de Matsumoto, et où les personnages qui regardent le film disent « Ah oui, c'est ça le cinéma Underground, j'ai rien compris. » On a même tout à la fin un personnage qui intervient comme ça, disant « Bon, voilà, vous avez vu un film terrifiant, bonne continuation, à bientôt. » Non, ce qui est très passionnant, moi, je trouve, dans le film, c'est évidemment ce personnage de Peter, c'est-à-dire qu'il a une puissance d'incarnation, une beauté à l'écran. On est, comme les personnages du film, complètement fascinés par lui. Donc on est très heureux quand on le voit. C'est le côté complètement déconstruit. J'ai mis du temps à comprendre que c'était déconstruit. Il y a des moments où je pensais que les personnages jouaient double jeu, mais non, c'est en fait ce qu'ils disaient qu'ils allaient faire. Ils l'ont pas encore fait, mais parce qu'on est revenu en arrière et puis on revient en avant. Donc tout ça est extrêmement réussi. Et puis il y a aussi le côté documentaire du film. Je sais pas si, il me semble pas que vous l'ayez dit, Philippe. C'est-à-dire que régulièrement, on a des interviews, par exemple, de gens dans la rue, avec ce côté très étonnant et qui résonne énormément avec maintenant, parce que aujourd'hui, voir à l'écran un personnage travesti, transsexuel, on commence à en avoir une certaine habitude. La culture queer est de plus en plus connue et même à la mode, par moment. Et cette mode-là, elle l'est déjà à l'époque. C'est-à-dire qu'on voit un jeune homme qui est interviewé dans la rue et à qui le réalisateur demande « Et alors, vous êtes homosexuel depuis quand ?» Et lui dit « Depuis lundi dernier. »
Non, depuis le mois de décembre, il répond.
Bon, on ne sait pas quand est-ce qu'on est. En tout cas, c'est assez récent. Et vous aimez les hommes ? Non, pas du tout. Moi, je trouve ça très cool d'être gay. Et il y a ce côté.
Et après, il dit qu'il est gay depuis toujours.
Voilà. Enfin, on sent que c'est un peu complexe. Quoi. Mais ce qui est encore plus passionnant, c'est ces moments où le tournage s'arrête, où on vous montre le dispositif de tournage, notamment sur une scène de sexe filmée de manière presque abstraite, les peaux qui se touchent, etc. C'est très beau, c'est surexposé parce que c'est aussi une des modes de l'époque. Et puis là, tout d'un coup, on sort de ça, on voit les conditions de la scène de sexe. Il n'y a absolument rien de glamour comme toutes les scènes de sexe, quand on voit comment c'est fabriqué. Et là, il y a une interview du personnage principal qui se distancie et se rapproche de son personnage en même temps, et ça crée un trouble formidable, parce que ce personnage de Peter est aussi fascinant au naturel, entre guillemets, puisque évidemment ça aussi c'est certainement joué dedans, mais qui nous met à des niveaux comme ça de vibration d'une couche à l'autre du film, qui est tout à fait emboutante. Voilà. Et même les excès de la fin, moi ça m'a rappelé le cinéma politique plus hétérosexuel de l'époque de Wakamatsu, etc., qui n'avait pas peur d'y aller aussi avec le gore et avec le rapprochement avec les luttes politiques de l'époque qui arrive aussi. Ouais, il y a cette photo extraordinaire de l'amant noir qui fréquente ce camp qu'un Américain manifestement, et dont on se rend compte qu'il est juste en vacances entre deux opérations au Vietnam. Et la photo qui est dans sa poche est absolument glaçante.
Charlotte Garçon, à présent, votre regard sur ce film.
Oui, mais vous l'avez dit, le film contient tout. Enfin, en tout cas, veut tout contenir et éclate et veut éclater de ce trop-plein. Et d'ailleurs, la citation de Charles Baudelaire qui ouvre le film, « Je suis la joue et le soufflet. Je suis la plaie et le couteau. » Voilà. Et « Je suis la joue et le soufflet. » Voilà. À chaque fois, c'est-à-dire que de même que le travesti ou la drag queen contient les deux sexes. Et on sent que le film est sur ce brouillage des frontières, mais pour occuper le terrain un maximum. Et cet aspect rhapsodique de référence, moi, m'a assez vite pesé. C'est-à-dire que il y a effectivement un effet de saturation. Il y a une splendeur photographique qui nous permet de continuer, enfin d'avoir une sorte d'endurance à voir. Mais assez rapidement, moi je me suis dit, c'est pas possible. On a effectivement l'avant-garde américaine, les citations d'auteurs français, un effet Marianne Bad plutôt réussi de boucle narrative. Donc René, l'affiche du Pasolini, bon là on se dit, en plus dans une mise en scène qui ressemble à Anna Karina dans Vivre sa vie qui marche devant des affiches. Bon,
mais c'est le jeûne. Tant qu'à faire.
Notre-Dame des Fleurs. Donc c'est absolument bourratif et moi assez rapidement cet effet de saturation, même avec cette vigueur expérimentale, parce qu'il faut une virtuosité quand même très très grande et photographique et de montage, et souvent les effets, même s'ils sont empruntés, sont réussis, quand même je trouve ça fatigant, assez rapidement fatigant, et surtout dans la mise à distance de l'émotion, si vous voulez. Autant je peux m'extasier que vers la fin il y ait une scène en caméra subjective et que je me dise mais c'est génial parce que c'est un plan impossible, puisque le personnage qui déambule et dont on est censé avoir le point de vue ne peut pas voir, il s'est aveuglé, donc c'est assez extraordinaire. Autant
dans un film distancé, voilà, continuellement distancé,
autant se dire ça prouve bien qu'on n'est pas du tout dans l'émotion, parce que là il est en train d'arriver quelque chose de terrible au personnage, donc voilà. Ça fait quand même écran à une forme d'émotion que moi je recherche malgré tout au cinéma.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a tellement. Moi je suis plutôt dans l'équipe Charlotte Garçon là, sur ce film-là, parce qu'il y a tellement de parti pris avant même que le premier jour de tournage que ça cadre le film absolument partout, ça le borde absolument partout. J'ai l'impression de voir un film d'un étudiant de cinéma assez génial, mais qui doit du coup reverser toutes ses citations, qui doit du coup étaler absolument tous les points qu'il faut, montrer qu'il est virtuose dans chaque type de filmage, et donc on a un catalogue. Alors du coup, si on veut effectivement avoir une petite histoire du cinéma underground circa 70 en 1h40, on a absolument tout. Mais juste sur le Eddie quand même, Eddie Sedgwick, mais Eddie peut quand même aussi, Philippe Azoury.
Je
Édipe. Édipe.
Ah oui, Édipe.
Non,
ah
parce que vous dites. Bah oui, non.
Oui, bien sûr. Oui.
Non, mais ça fait partie des choses un peu drôles de.
Non,
film.
Absolument.
Vous vouliez ajouter.
Non, c'est effectivement toujours l'éternelle opposition entre les grands maîtres et les petits maîtres. Les grands maîtres n'ont qu'une idée. Enfin, voilà, ils n'en ont qu'une. Et ils tapent dessus éternellement. Ils font tous leurs films là-dessus. Les petits maîtres en ont trop. Ils en ont une à chaque plan. Et effectivement, dans le cinéma japonais, le cinéma japonais de cette période-là est rempli de petits maîtres qui ont été des très très grands virtuoses, qui ont essayé la photographie japonaise aussi. C'est assez troublant de voir qu'il y a le côté presque bourratif du film. Moi je le prends avec par moment le film moi aussi me lâche, me fatigue, ou je m'absente. C'est pas si grave, enfin voilà,
c'est pas grave, hein.
On y va piocher, on y prend de l'énergie pendant 10 ou 15 minutes, on le laisse faire ces trucs de laborantin, on revient, il repart. Il faut le vivre comme un club, je pense, avec ce côté performatif tout le temps. Et dans les performatifs, il y a des numéros qui sont pas réussis, il y a des numéros qui sont magnifiques. Celui-là alterne, voilà, c'est quand même toujours très très beau à l'image, très très voilà. Mais c'est un film de petit maître,
absolument. Charles Garçon.
Mais quand même là, vous passez sous silence, à mon avis, la dimension mortifère, et qui est peut-être l'intérêt quand même du film, c'est-à-dire que ce sont pas des révolutions, ce sont des hédonistes, ces jeunes gens qui dansent, etc., qui se déshabillent, qui fument, qui regardent des films sans vraiment les comprendre. Leur révolution, elle est à côté de l'engagement politique. D'ailleurs, ils passent à un moment près de manifestants et ils regardent les yeux un peu dans le vague. Voilà, ils sont juxtaposés à ce qui arrive politiquement dans le pays, et ça, c'est intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que la génération génération d'avant, incarnée par l'amant, on va pas dire l'amant, mais qui est l'acteur qui jouait l'un des paysans dans les sept samouraïs de Kurosawa. Donc vraiment, la génération précédente dévore ses enfants. Enfin, quasiment, il y a un côté dévorateur. Donc moi, au contraire, à part la fatigue formelle de ce formalisme effréné, il y a aussi quelque chose de très, très mortifère. Énergique et énergisant, comme vous avez l'air de le dire.
C'est une énergie, enfin, c'est une dynamo qui tourne, qui peut tourner à vide. Mais effectivement, il n'a pas la conscience politique, même d'Oshima ou de Wakabatsu.
Wakabatsu était
plutôt enragé politiquement.
C'est pour ça que moi aussi je parlais de Wakabatsu tout à l'heure. C'est-à-dire que le film est à côté. Et pour moi, c'est une génération qui a refusé de, même s'il y a une sympathie pour, parce qu'à un moment, elle aide un manifestant qui est tabassé par la police, qui a fait un choix qui est effectivement le choix du club, de la chose fermée, et avec le sentiment très fort que de toute façon ça va finir. Que de toute façon il y aura toujours quelqu'un pour finir par leur taper dessus, voire plus, et que la mort d'une façon ou d'une autre est la destinée. Mais ceux qui ont fait le choix Wakamatsu sont partis politiquement dans la même direction, sauf que eux se payaient de mots, ce que Wakamatsu a constaté des années plus tard en faisant United Red Army.
Allez voir par vous-même Les Funérailles des Roses de Toshio Matsumoto, plusieurs projections événementielles à venir ces prochains jours à Paris, deux au cinéma Le Reflet Médicis. Demain, 23 février, 19h55, présentation et rencontre avec Stéphane Dumenindo et Bertrand Mandico. Mardi, 19h55, toujours au Reflet Médicis, et ce sera là présenté par Pascal Alex Vincent. Et puis au MK de Beaubourg, lundi soir, 25 février, 19h35, Stéphane Dumenindo à nouveau et Pacom Tiellement, voilà, qui vaut à chaque fois le déplacement. Philippe Azoury, on a évoqué très rapidement la Berlinale pour le ressenti des festivaliers sur Grâce à Dieu, mais qu'est-ce que vous avez retenu, vous, que vous avez envie de partager, que nous fassiez envie sur des films qui vont nous arriver?
J'ai plutôt eu de la chance, moi, sur la Berlinale. J'entends Antoine Guillot qui est... Je suis arrivé en deuxième partie de festival. Il faut savoir que la Berlinale, contrairement à Cannes, qui est un festival où les films sont, le passage d'un film est concentré sur deux ou trois jours, la Berlinale étale ses films. Ce qui fait que quand on arrive, comme moi, du mardi au samedi, dimanche, on a le temps de se renseigner auprès de qui, parmi les critiques portugais, américains, espagnols, etc., allemands, peut nous conseiller, nous tuyauter sur les bons films. Puis j'avais un comparse, Romain Charbon, qui vit à Berlin, donc qui lui était là depuis le début, et qui aussi, enfin, que j'ai trouvé dans un état pas terrible, enfin, en arrivant. Donc ça n'a pas l'air d'aller très fort. Il avait vu beaucoup de films, et sans doute beaucoup trop.
Alors partageons les tuyaux.
Non, mais dans une sélection, il faut le dire, c'est la dernière de Dieter Kosly, qui sera remplacée par Carlo Chatrian et Maria Trissenbeck à partir, voilà, c'est immédiat. C'est sa dernière sélection depuis 2001. Dieter Koslik n'a jamais brillé pour un grand courage esthétique dans la sélection officielle. Et c'est dommage, mais cette année, on peut presque l'oublier, parce que le grand prix a été le grand film. Voilà. Alors, ce film est arrivé, je suis désolé Antoine, parce que vous étiez déjà parti. Ce film est arrivé un peu tard. Il est arrivé jeudi ou mercredi soir. Il s'appelle Synonyme de Nadav Lapid. Son troisième film, on connaît bien Nadav Lapid ici, le policier, l'institutrice. C'est un film bien, bien plus fort, Synonyme. C'est un film qui m'a rappelé dans sa façon d'enjamber la fiction, d'enjamber même le rythme des scènes, a pu me rappeler le Godard des années 60 et surtout le mauvais sang de Carax, que j'ai jamais revu, donc j'ai peut-être un peu peur, mais là, en tout cas, avec cette espèce de lyrisme-là et de puissance et de rage, quasiment, c'est un film un peu au glavio, contre son propre pays qui est Israël, puisque c'est l'histoire d'un soldat d'élite de Tsahal qui vient en France et qui décide de ne plus jamais parler hébreu et de ne plus jamais être associé d'une certaine manière à Israël. Si je parle de ce film, bon, non seulement il a été porté par un corps d'acteurs qui est incroyable, rarement vu ça, par une caméra qui est haletante, mais ce film porte avec lui une sorte de renouveau du cinéma israélien dont justement la Berlinale nous a présenté globalement les enfants les plus en colère. Il y avait deux autres films au forum, qui étaient The Day After I'm Gone de Niram Eldar et Shane de Yaron Shani, qui sont des films qui sont, et c'est étonnant d'ailleurs de rentrer en France lundi, mardi, au sein d'un débat dont on pensera ce qu'on veut entre antisémitisme et antisionisme, alors que là, on a une critique de l'intérieur qui vient enfin, après 10 ans d'une politique quand même aveugle de Netanyahou, sur une rupture à l'intérieur même de la société israélienne entre ce qui serait d'un côté les progressistes et de l'autre côté les ultranationalistes. Et ces trois films, que ce soit celui de Naval Lapid qui s'exile littéralement d'Israël, ou les The Day After I'm Gone ou Shane qui sont des films de l'intérieur, avec des humeurs différentes. The Day After I'm Gone est presque un film qui est en surface pour être un film, une comédie, mais qui est d'une amertume à l'intérieur incroyable. Shane, c'est l'histoire d'un policier qui est une sorte de mal-alpha, qui est une sorte de crise, et qui tombe dans des actions ridicules. On voit carrément, enfin, de la part de toute une génération de cinéastes, des gens qui sont en train de nous alerter, de nous dire ce qu'il se passe actuellement dans la politique israélienne va beaucoup trop loin. On est au point où, d'un point de vue identitaire, on ne peut plus se regarder en face. C'est rare de le voir de trois films qui sont faits de façon indépendante. Je ne sais même pas si ces gens-là font clan ou bande. J'ai même pas l'impression. J'ai l'impression que ce sont des brûlots sortis de venus d'Israël que Berlin nous a présenté et qui tombent à pic. Enfin, je veux dire vraiment aujourd'hui dans la considération de ce qu'est la société israélienne.
Ces films vont sortir, il y a déjà une date, je crois, pour Synonyme.
Oui, je l'ai pas sous
prochaine,
les yeux.
Prochaine, mais enfin, on pourra tous les voir et on aura, on l'espère, l'occasion d'en reparler ici.
Oui, ou peut-être même de leur parler aussi, c'est-à-dire de savoir où ils en sont, parce que c'est ça que ça pose. Où en est la société israélienne aujourd'hui, de l'intérieur.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
On va rester dans le thème, si je puis dire, avec un dernier film, notre sommaire, qui nous vient de Roumanie. Peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares, de Radu Joud, qui nous raconte comment une jeune metteuse en scène cherche à monter une reconstitution d'un épisode tragique, infâme, au cours duquel l'armée roumaine a massacré 20 000 juifs à Odessa en 1941. Bon, le problème, c'est qu'elle veut montrer son travail sur la place centrale de Bucarest, dans une manifestation organisée par la mairie. Forcément, cette jeune femme va se retrouver confrontée à beaucoup, beaucoup de problèmes.
Ah, my boy!
Ideea asta de reconstituire militară are drept scop să-i omagieze pe cei căzuți pe câmpul de onoare. Atât! Eu vă rog să nu faceți ceva de scandal.
Ce fac cu textul ăla lui Mihai Antonescu din 8 iulie 1941?
Care-te!
Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari. Nu știu peste câte veacuri neamul românesc se va mai întâlni cu libertatea de acțiune totală, cu posibilitatea de purificare etnică și revizuire națională.
Nu am deportat niciun evreu din România.
Auzi, poți să-ți imaginezi așa ceva în Germania? Să vezi filme care le elogiază pe Hitler la televizor?
După Germania nazistă, țara care a ucis cei mai mulți evrei, suntem noi.
Pe ala mea și acolo cu noi.
Ce se întâmplă aici mi se pare extrem de anti-omule.
Aveți milă, vă rog, vă rog, vă implore!
Vă mulțumesc mult pentru tot!
Peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares. C'est un extrait, hein, une phrase extraite d'un discours qui sera d'ailleurs coupé au montage, si je puis dire, par la metteur en scène, puisque un de ses acteurs vient lui réciter ce discours et du bon, c'est nul. On le garde pas. Mais c'est quand même le titre du film, Antoine Guillot.
Elle dit pas que c'est nul, d'ailleurs. Elle dit, oulala, j'avais oublié, je sais plus où le mettre maintenant, oui. Dans le spectacle, ce qui est pas exactement pareil. Alors, on pourrait dire de Radu Joud qui fait tout ce que François Ozon n'a pas fait, c'est-à-dire qu'il se pose des questions de cinéma, c'est-à-dire des questions de représentation. Quand on parle de ces horreurs de la Seconde Guerre mondiale et du massacre des Juifs en particulier, se pose toujours la question de comment représenter ça, sachant qu'il n'y a pas d'image. Il y a quelques rares photographies, il n'y a pas de film. Et le film commence comme ça, d'ailleurs, sur une image d'archive qu'on va voir sur un moniteur, sur une table de montage, qui n'est pas la représentation de ça, mais qui est un film de propagande roumain de l'époque, montrant l'entrée triomphale des troupes roumaines à Odessa, qui vont déposer l'étoile rouge pour mettre le drapeau roumain à la place. Alors, c'est un peu d'ailleurs la limite du film pour un spectateur français qui ne connaît pas très bien forcément la Roumanie, c'est que le film fait référence à un substrat
que tout Romain connaît, qui est le roman national roumain. C'est comment, dans la, l'esprit général, la Roumanie s'est très bien comportée pendant la guerre, comment le maréchal Antonescu a refusé de livrer des juifs à Hitler, et comment, au bout du compte, en plus très rapidement, parce qu'il y a eu un coup d'État, la Roumanie s'est retrouvée d'une certaine façon du bon côté. Et puis, de toute façon, il y a eu les communistes après qui ont fait des horreurs bien pires que ce que nous avons subi pendant la guerre. C'est ça qu'on en, non, c'est ça qu'apprennent les Roumains, mais c'est ça qu'ils voient représenté à la télévision, etc. Donc là, le film se pose vraiment ces questions-là. Donc une fois qu'on a ce moniteur, on va avoir distanciation à nouveau, une actrice qui explique qu'elle va jouer un rôle, celui d'une metteur en scène qui va monter ce spectacle. Elle donne son nom, elle donne le nom de toute la distribution, et sans solution de continuité, dans le même plan, quelqu'un l'appelle en lui disant il y a les vieux qui sont les seniors, pardon, les vieux qui sont arrivés pour jouer. Et tout d'un coup, dans le même plan, elle devient cette metteur en scène. On se rend compte qu'on est dans un musée où, parce qu'il y a des vitrines et des uniformes derrière des fusils et des uniformes derrière des vitrines, donc on est manifestement dans un musée de l'armée, on ne comprend rien, hein. Et là, la caméra part dans tous les sens.
Alors, le premier quart d'heure, il faut un peu s'accrocher.
Complètement perdu, et puis tout d'un coup, le récit prend forme et arrive ce que vous venez de raconter, Arnaud. Mais ça nous est pas donné tout de suite. Et en même temps, c'est pas très grave si on est un peu perdu. D'abord, parce que ça donne envie d'en savoir plus pour un spectateur. Par exemple, de savoir, parce qu'à un moment, il regarde un film à la télévision après une partie de Jambes en l'air, pour dire, tiens, il y a le film en hommage à Antonescu qui passe. Ce film, c'est celui réalisé par le plus connu des réalisateurs roumains en Roumanie, dont on n'a jamais vu de film ou presque en France, qui s'appelle Sergiu Nicolaescu, réalisateur qui a fait son beurre aussi bien sous les communistes que après, où il est devenu homme politique, etc., et qui a donné ce film extrêmement populaire là-bas, qui est la version officielle d'Antonescu, qui a fait, c'est un peu comme si on faisait un film sur Pétain aujourd'hui, en adhérant.
On l'a entendu dans la bande-annonce, mais t'imagines en Allemagne un film à la gloire d'Hitler qui passe à la télé.
On pourrait avoir la même chose. Imaginez que la majorité des gens en France aujourd'hui croient qu'effectivement Pétain, c'était le bouclier. Voilà. Alors certains minoritaires continuent à défendre cette thèse sur les antennes, mais généralement on sait à peu près le rôle qu'a fait Pétain là-bas. Là-bas, elle a besoin de faire ça. Et ce qui est très étonnant avec ce film, c'est qu'on rit beaucoup, parce qu'il y a un côté complètement farcesque, et notamment dans ces discussions qui n'en finissent pas avec l'homme qui doit prendre le rôle du censeur et qui va jouer la culture contre la culture, parce que elle lui sort tous les livres qu'elle a lus, où elle sait ce qui s'est passé, et lui va faire des allusions juste pour montrer des allusions culturelle, juste pour montrer que lui aussi, il est à son même niveau, mais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et puis, il y a des moments où ça devient absolument glaçant, quand on s'arrête sur une des rares images, et parfois sur l'absence même de ces images, et là, ça provoque quelque chose de tout à fait sidérant.
Oui, on peut y rester longtemps sur ces images, qui plus est. Charlotte Garçon.
Oui, c'est vrai que c'est un film très, très réflexif, alors non seulement au sens où il montre un processus de tournage, comme vous l'avez dit au début, mais réflexif parce qu'on le sent nourri de réflexions sur la présence de l'archive dans un film et le montage, sa place dans le montage. Comment on ne balance pas comme ça une archive dans une fiction, contrairement à beaucoup de films qui la mettent à la fin, qui la collent à la fin ou au début et puis qui s'en débarrassent comme ça. À chaque fois, il faut réfléchir aux effets entre le récit, entre qui est en train de travailler dessus. Donc ça, c'est assez réussi. Mais du coup, le film est assez théorique à tous ces moments. Mais de bonne façon, je trouve. Au début, moi aussi, j'ai eu du mal à rentrer dans cette... je trouve ça assez rugueux, en fait, assez ingrat. Parce que le personnage lui-même, dans son intimité, dans sa vie, on a un petit peu accès à sa vie de couple. Voilà, c'est des bribes d'intimité que je trouve pas très intéressantes. Donc, quelque chose, au début, pour moi, ne prend pas. Et puis, quand on comprend de quoi il va s'agir, la deuxième partie, puisque le film a trois parties assez nettes. La deuxième partie, c'est cette joute oratoire avec le représentant de la culture de la ville qui tient les cordons des subventions et qui, effectivement, c'est important, a des arguments à chaque fois. C'est-à-dire qu'il représente véritablement les différents arguments, que ce soit l'argument, un cynisme à tous les étages, voilà, y aura des enfants dans le public, donc le spectacle que vous allez faire ne peut pas représenter le massacre de juifs. C'est à tous les niveaux et il est très intelligent. Donc plus il est intelligent et plus c'est intéressant. Et puis la troisième partie, c'est effectivement le spectacle Son et Lumière, enfin le Puy du Fou local, et les réactions du public dont on devine qu'elles sont peut-être en partie documentaires. J'ai essayé de chercher.
La nature, la nature même de l'image change à ce moment-là. On a le sentiment que c'est une captation télévisée de ce qui est en train de se passer.
Avec les grues qu'il faut pour bien suivre.
Voilà, donc il y a quelques figurants, mais il y a aussi des réactions de foule, de masse, dont on imagine bien que justement elles vont dans le sens. D'ailleurs, elles changent de sens. C'est vraiment un spectacle au sens le plus romain du terme, quoi. C'est-à-dire que l'armée roumaine arrive, on l'applaudit, les soviétiques arrivent, on les conspue, etc. Et en même temps, on peut aussi changer de il y a des espèces de vagues comme ça. Donc c'est évidemment terrifiant et le but, c'est de montrer ça. Alors voilà, moi, la limite de ça, je trouve que ça reste théorique, alors qu'un film comme Donbass, dont vous aviez parlé, où il y avait aussi un décrochage comme ça réflexif et un lien avec le théâtre, était beaucoup plus sidérant et surprenant, déstabilisant. Là, il me semble que c'est un bon film didactique, quelque part. Mais il manque cet ébranlement, disons...
Moi, j'ai pas vu Donbass, donc je peux pas répondre à Charlotte. Mais effectivement, comme Charlotte... Comme Antoine aussi, je crois, enfin, j'ai un peu cherché à savoir si la dernière partie, la partie Puy du Fou, comme dit Charlotte, était une partie captée, enfin, si c'était la captation, si ce que l'on entendait venant du public de Bucarest n'était pas quelque chose qui avait été écrit, scénarisé, et qui attesterait de l'échec, d'une certaine manière, de toute la théorie, de toute la pensée politique magnifique, enfin, qui est pendant les deux précédentes parties du film, et nous mettant en face, enfin, d'un antisémitisme réel, hélas, vif, vivace, aujourd'hui, et qui rend le film d'autant plus important. C'est vrai que la matière de l'image nous laisse à penser que oui, qu'il s'agit d'une captation. Pour le reste, sur ce qui est, je suis comme vous, c'est-à-dire le très très peur pendant les 15-20 premières minutes, très très peur d'un film qui est totalement amoureux de son dispositif. Ça peut perdre, enfin on n'a pas les armes, mais on peut même voir le danger d'un film qui, à force de fonctionner par poupée russe comme ça ou par des emboîtements, finirait par ne produire que de la surreprésentation à propos de la représentation. Mais en fait non, j'ai l'impression que le film passe une première partie à se chercher un partenaire, comme un joueur de tennis. Ce premier partenaire, on pense effectivement, la vie de couple du coup devient un peu inutile une fois qu'on l'a compris. On croit que c'est le boyfriend, le mari, le copain. Bon, je crois que c'est plus un copain, ça, je pense.
Oui. Enfin,
voilà. Le coup d'un sou, le coup de quelques soirs. C'est pas lui. Il n'a pas grand chose à faire. Il n'a pas grand chose à dire non plus sur la question. Ça n'intéresse pas des masses. On lui lit Isaac Babel alors qu'il préférait voir le sexe de sa compagne. C'est un peu déceptif. La deuxième partie, elle devient magnifique à partir du moment où effectivement on a ce personnage un peu donc de
commanditaire,
représentant de la culture, monsieur censeur, je ne sais pas comment l'appeler. Mais la grande intelligence, de toute façon, le film est intelligent partout, mais la grande intelligence de Radoujoud, c'est justement de faire jouer le personnage de Mariana Martin, une sorte de passionnariat, comme ça. Ça fait partie de ces personnages, vous savez, qui ont toujours besoin d'un ennemi. Moi, j'ai une fascination, enfin, j'ai beaucoup d'affection pour ces personnages-là. Peut-être que moi aussi, j'ai toujours besoin d'un ennemi dans la vie, donc c'est pour ça. J'en veux plein. Offrez-moi-en. Et on a un ennemi qui est parfait, qui joue bien. C'est-à-dire, on a un ennemi qui est retors, qui est malin, qui est cultivé. Un bon ennemi doit être cultivé, qui joue, et le film grandit. Effectivement, la dernière partie, moi, je la trouve très très forte. Enfin, j'aimerais déjà la revoir pour voir ce qu'il fait à l'intérieur même de... Dans un film qui peut rappeler parfois, dans ces grands plans séquences, où il y a de la pluie qui tombe, le soleil change, qui peut rappeler la nouvelle vague tchèque, un certain cinéma italien, là j'ai l'impression dans la dernière partie qu'il y a une rugueur qui vient presque même des strobes, ou même dans certains cinémas italiens, à certains moments des années 70, lorsqu'il revenait sur des représentations, Pasolini, notamment le dernier Pasolini, le Pasolini pas très très, pas très aimé. Le film m'a vraiment surpris. C'est des grandes. C'est quelqu'un que j'avais pas identifié, Radoujoud, et Farim qui avait gagné Berlin en 2015, c'est un film que j'avais pas vu. Dead Nation, qui est un documentaire justement sur la mémoire et sur le récit national roumain, n'est pas sorti hélas en France, qui date de 2017. On a très envie de voir ce premier film documentaire aujourd'hui pour pouvoir arriver à l'imbriquer à cette fiction, parce qu'il y a quelque chose de magnifique qui se passe là, oui, effectivement.
Bon, moi, je rajouterais, les quelques instants qui restent, il y a quand même quelque chose dans la vitalité
du cinéma roumain, à parler de la politique, qui est quand même toujours assez fort depuis maintenant une bonne, enfin depuis une bonne quinzaine d'années, depuis la chute des Ceaușescu. C'est vrai que moi, enfin, j'ai toujours cet appétit de d'un cinéaste roumain qui arrive, on a envie d'aller voir ce qu'il a à nous montrer, parce qu'ils ont une sorte de brutalité, mais avec douceur, à regarder leur histoire en face, à oser des dispositifs.
Périm que j'ai pas vu parler manifestement de l'esclavage des Roms. Enfin, c'est vraiment c'est,
donc,
c'est un cinéaste qui va au.
Mais ils y vont parce qu'ils sont quand même assez nombreux maintenant, tous ces cinéastes roumains qui nous parlent de cela. Et c'est vrai que cette scène, cette longue scène avec le commanditaire, elle est vraiment en plus centrale dans le film. Elle se situe vraiment au milieu. Parce que tout est pensé chez Radoujo,
oui,
visiblement.
C'est très bien, disposé.
Et c'est formidable parce que on va pas se taper sur François Ozon, mais toutes les questions que pose le film sont posées dans le film et permettent aussi aux spectateurs de se les poser pendant la projection. Enfin, il y a quand même une proposition d'intelligence réflexive, hein, c'était le mot que vous employiez, Charlotte Garçon. En tout cas, c'est une vraie conversation qu'on peut avoir avec ce film. C'est pas justement simplement malin, ça amène vraiment le spectateur à être actif.
Il n'y a pas de passivité,
voilà.
Chez le spectateur.
On est absolument actif. Et c'est vrai qu'il y a quand même cet humour si particulier. Très noir. Donc on est quatre à vous encourager vivement à aller voir. Peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares de Radu Jodha. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute ce soir, ce n'est pas Sarah Dion qui est avec nous, mais c'est notre stagiaire de troisième, Pauline Ngatadi, qui va tout d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier au soir. J'ai autant le trac que vous, hein, Pauline. La question du jeu d'hier soir et sa réponse.
Alors, la question du jeu d'hier soir était: en quelle année ont eu lieu les massacres d'Odessa décrits par Radu Jodha dans son film?
Et la réponse
est 1941.
Ce soir, on va faire gagner des invitations pour deux expositions qui ont lieu au Centre Pompidou. C'est le cycle Mutation-Création. Quelle est la question, Pauline?
La question de ce soir est: quel célèbre cinéaste italien a filmé l'inauguration du Centre Pompidou à son ouverture en 1977?
Votre réponse, c'était très bien. Formidable. Ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez écouter nos émissions, podcaster nos émissions. On se retrouve lundi à 19h pour une dispute qui sera consacrée à la danse. Je serai en compagnie d'Anna Sigalevich, Florian Guetté, Philippe Nozette. Nous parlerons de H, nouveau spectacle d'Aurélien Bory. Aujourd'hui, Sauvage de Fabrice Lambert. Fix Me d'Alban Richard. Et puis il y aura un coup de cœur de Florian Guetté pour la Biennale de danse du Val-de-Marne.